Il est depuis un an responsable du service diocésain jeunesse et de Isère Anybody, et chapelain, s'il vous plaît, de la basilique Saint-Joseph, l'église confiée aux jeunes. Vous l'avez déjà entendu vous haranguer sur la démarche des jeunes, et Fata, mais Emmanuel a plein de talents cachés et il joue du violoncelle, mais il est aussi docteur en théologie. Et c'est cette casquette-là qu'il va utiliser ce matin pour nous dire, nous parler de... Au fait, l'Église, c'est quoi ?
Bonjour à tous. Alors, on a un petit instant de recul possible. Vous savez, il y a deux sortes de recul. Il y a le recul dans le temps et il y a le recul intérieur. Le recul dans le temps, c'est... Là, vous vous dites, bon, revenons dans le temps, à 7 heures du matin quand mon réveil a sonné, et peut-être que je vais pouvoir profiter de ce temps-là pour faire en sorte que virtuellement mon réveil ait en fait sonné à 7h30. Je conseille à ceux qui sont dans cette dynamique-là, qui est tout à fait louable peut-être, de veiller à ce que votre stylo ne tombe pas, parce que vous l'avez quand même sorti, pour faire style, que vous allez suivre. Deuxième genre de recul, c'est le recul intérieur que peut-être certains parmi vous pourront vivre. C'est-à-dire, on est tous investis dans une vie paroissiale ou de mouvement d'église. Et pour certains, cet investissement réclame un engagement fort. Non seulement par le temps que vous y consacrez, mais aussi par la préoccupation. Préoccupation continue ou par l'énergie déployée. Alors ce recul intérieur que je vous propose ce matin, il a précisément pour but de soutenir cet effort, de soutenir votre engagement en s'interrogeant sur cette Église au service de laquelle nous nous mettons, au service de laquelle nous déployons de l'énergie. Quelle est cette Église ? Qui est-elle, cette Église ? Alors je commencerai, si vous voulez bien, par un petit regard historique, un bref regard historique, pour, à travers l'enseignement du Concile Vatican II, interroger notre pratique habituelle. Je voudrais, si vous voulez bien, vous partager un outil qui me semble être un outil de discernement qui pourrait nous aider de deux manières. D'abord, mieux comprendre ce qu'est l'Église, la nature de l'Église. Et puis d'autre part, donc, encourager, s'encourager les uns les autres à ajuster notre mode de vie communautaire. Ça va ? Stylo, c'est bon ? Tombe pas ? On y va. Premier point, si vous voulez, l'enseignement de l'histoire. Fermez les yeux 2 secondes. Pas pour dormir. Hein. Imaginez que nous sommes un diocèse de l'Antiquité chrétienne. Diocèse des premiers siècles, en Orient, diocèse des premiers siècles en Occident. La question que je pose, quelle est la nature de l'Église ? C'est quoi l'Église ? Cette question aurait paru vraiment saugrenue à une communauté comme la nôtre. On serait dit, mais de quoi il nous parle ? C'est peut-être le cas, hein. Pourquoi ? Parce que les premières générations chrétiennes ne s'interrogeaient absolument pas de cette manière-là. Les premières générations chrétiennes ne se posaient pas la question de l'Église de manière théorique. C'est quoi l'Église ? Ils ne se posaient pas les questions de cette manière-là pour une raison assez simple. C'est que cette réalité qu'on appelle l'Église leur apparaissait plus spontanément comme le fruit d'une autre réalité dont ils appréciaient la fécondité concrète, la réalité de l'Église, il ne se posait pas les choses, la question de manière théorique, parce qu'il la voyait davantage comme le fruit d'une autre réalité dont ils appréciaient le fruit concret. Quelle est cette autre réalité ? C'est l'Eucharistie. Pour le dire de façon plus abrupte, si vous voulez bien, leur manière de vivre l'Eucharistie à ces premières générations chrétiennes, leur manière de vivre l'Eucharistie était plus dynamique. Non pas qu'ils frappaient des mains plus souvent ou plus fort que nous, mais vous voyez, parce que leur conscience de la finalité de l'Eucharistie, quel est le fruit de l'Eucharistie ? Leur conscience de la finalité de l'Eucharistie était plus vive. Je cite Candide de Fulda. Ça parle ? Ben moi, ça ne me parlait pas du tout, rassurez-vous. Candide de Fulda était un moine carolingien, donc du 8e siècle. Et ce brave Candide disait ceci. Jésus prend le pain. S'il a voulu que le sacrement de l'Eucharistie, si Jésus a voulu que le sacrement se fît en ce pain, écoutez bien ce qu'il dit, c'est que le pain ressemble bien à son Église. Jésus prit le pain. S'il a voulu que le sacrement se fît en ce pain, c'est que le pain ressemble bien à son Église. Autrement dit, vous le voyez, pour les premières générations chrétiennes, parler de l'Eucharistie, en fait, c'est déjà parler de l'Église. Parce que l'Église est le fruit de l'Eucharistie. Dans sa nature intime, l'Église est produite par l'Eucharistie. Et donc, c'est en méditant le mystère de l'Eucharistie qu'on peut comprendre ce qu'est vraiment l'Église. Voyez, je termine ce premier point, retour historique, jusqu'à une période avancée. Saint Thomas d'Aquin, dans sa Somme de théologie, au milieu du XIIIe siècle, n'a pas d'article sur l'Église. Jusqu'à une période avancée, vivant l'Eucharistie avec une vive conscience de sa signification relationnelle. Vivant l'Eucharistie avec une vive conscience de ce qu'elle signifie dans les relations qui sont tissées entre nous, rien n'imposait aux croyants de parler de l'Eucharistie de manière isolée, de manière spécialisée, indépendamment de l'Eucharistie. Ça va ? Premier point. Alors, deuxième point de ce petit topo, notre situation présente à nous, maintenant, aujourd'hui. Cette concentration du regard sur l'Eucharistie, dont l'Antiquité et le premier Moyen-Âge chrétien portent le témoignage, cette concentration du regard sur l'Eucharistie rejoindra peut-être certains parmi vous ou ce que nous vivons dans nos communautés. Nous savons que l'organisation des messes requiert beaucoup d'énergie de l'équipe paroissiale qui se demande dans quel relais célébrer la paroisse, la messe, sans froisser trop de monde. Tout lien avec une situation connue est évidemment fortuite. Donc de l'équipe paroissiale qui refait pour la 25e fois son planning de messe, à celui qui cherche une équipe liturgique, laquelle d'ailleurs n'a pas nécessairement un musicien sous la main, et encore moins un chanteur. Et le prêtre, lui, vous savez, sue d'abord sur son homélie, Et puis au milieu de la consécration, il réalise qu'il va manquer d'hostie. Alors il essaye de se souvenir de ce qu'il y a au tabernacle. Et puis là, il implore du plus profond de son être Jésus qui, lui, savait multiplier les pains. Je parle d'expérience. Bref, vous voyez, chers amis, la messe, dans une paroisse ou dans un mouvement d'église, ça peut occuper beaucoup d'esprit. Ça peut remplir des heures de réunion, de préparation. Qui plus est, si j'ajoute aux célébrations de la messe, celles des mariages, des baptêmes, des funérailles, que sais-je. Le témoignage du père Gérard Daguzan hier sur les baptêmes l'a bien relevé. Croyez-vous en Dieu le Père ? Je renonce. Voilà, chers amis, si nous recueillons le témoignage de nos prédécesseurs, si nous recueillons le témoignage de nos prédécesseurs qui ne considéraient l'Eucharistie qu'à partir, qui ne considéraient l'Église qu'à partir de l'Eucharistie, vu l'énergie qu'on déploie pour mettre en place nos messes en paroisse, on est bon. On est au top. Sauf que ça vaut peut-être la peine quand même de se poser la question. Est-ce que cette focalisation actuelle dans nos pratiques paroissiales ou communautaires est vraiment justifiée ? Quand j'accueille un nouveau qui pousse pour la première fois la porte de l'église de Saint-Jean, je vois que souvent, je lui dis, nous, tu vois, Isérénie Body, on se retrouve le dimanche soir à la messe à 19h, petite pub au passage, ou en semaine à 19h également. Souvent, je vois que j'invite tout de suite, je mets tout de suite le projo sur l'Eucharistie, sur la messe. Est-ce que cette focalisation est vraiment justifiée ? Je pose quand même la question, parce que je ne suis pas sûr que le retour sur investissement soit toujours optimal. Qui n'a pas un jour déploré que tel couple accueilli à la messe pour présenter son enfant au baptême n'ait jamais remis les pieds dans cette même église? Ne nions pas nos souffrances. Ce sont de vraies souffrances. Ne nions pas nos souffrances. Je crois que la théologie chrétienne a des ressources inépuisables qui continue de renouveler notre pastoral. Et pour cela, il faut revenir sans cesse à la source. Au fait, c'est quoi l'Église ? Revenons à cela. Qu'est-ce que l'Église ? Vous voyez qu'il est nécessaire de revenir à cela pour ajuster nos pratiques communautaires. Ça va ? Troisième point, j'ai fait un retour en arrière. Tiens, c'est marrant, les premières communautés chrétiennes ne parlaient jamais de l'Église de manière isolée, toujours en lien à l'Eucharistie. Ça peut conforter nos pratiques actuelles. Ouais, sauf que quand même, c'est pas toujours dingos, le retour sur investissement. Alors du coup, appuyons-nous sur l'éclairage de l'enseignement du Concile. Troisième temps, l'éclairage de Vatican II. Vatican II a des richesses inépuisables qu'il faut retrouver. Je n'étais jamais tombé sur le texte que je vais vous lire. Je ne l'avais jamais vu, je n'avais jamais pris conscience de ça. Dans la constitution pastorale, l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, il est dit ceci. Porté par les cloches. La famille chrétienne, écrivent les pères du Concile, la famille chrétienne manifestera à tous les hommes la présence vivante du Sauveur dans le monde et la véritable nature de l'Église. J'avais jamais lu ça. La famille chrétienne manifestera à tous les hommes la présence vivante du Sauveur dans le monde et la véritable nature, c'est-à-dire la véritable identité de l'Église. Tant par l'amour des époux, leur fécondité généreuse, l'unité et la fidélité du foyer, que par la coopération amicale de tous ses membres. Fin de citation. C'est dans Lumen Gentium, Gaudium et Spes, pardon, au numéro 48, le paragraphe 4. Du Concile, vous savez, on a souvent regardé la présentation de l'Église comme peuple. L'Église est le peuple de Dieu. Il y a toute une génération parmi vous, parmi nous, qui a été nourrie par cette image, qui a renouvelé profondément l'élan pastoral de notre Église. Mais ce n'est pas la seule image. Tout à l'heure, le Père Christophe, dans la prière, a utilisé par exemple une autre image à partir du texte de Saint Paul. L'Église, une autre image, c'est celle du corps. Il y a d'autres images pour parler d'Église. C'est l'épouse. L'Église, elle est le peuple, elle est l'épouse, elle est le corps. Il y a plusieurs images et il faut les articuler les unes avec les autres. Ici, j'en sors une autre image dont personnellement, je n'avais jamais pris conscience à ce point. La famille manifestera la véritable nature de l'Église par la coopération amicale de tous ses membres. Je fais un petit résumé de la citation que je vous ai donnée tout à l'heure. Voyez, le Concile fait directement le lien entre famille et Église. Pour comprendre ce qu'est l'Église, dans sa réalité intime, les pères du Concile nous disent « Regardez ce qu'est une famille ». Les pères du Concile n'ont pas fumé la moquette de Saint-Pierre. Hein. S'ils veulent venir fumer la moquette de Saint-Jean, qu'ils n'hésitent pas. Mais les pères du Concile font écho à la parole de Jésus dans l'évangile de Saint-Matthieu. Comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. À celui qui l'en informait, Jésus répondit, « Qui est ma mère ? Et qui sont mes frères ?» Et tendant sa main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère, voici mon frère, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là met un frère, une sœur et une mère. » Matthieu, au chapitre 12, les versets 46 à 50. Voyez, la communauté que Jésus rassemble autour de lui, c'est une famille. La nature de notre Église diocésaine, son identité profonde, c'est d'être une famille. Parce qu'entre nous, des liens nouveaux sont tissés, car nous cherchons tous à faire la volonté du Père. Que ta volonté soit faite. C'est ce que nous disons dans le Notre Père. Voyez, le Concile donne cette image, une autre image. L'Église est une famille. Alors on peut se poser la question, à quoi voit-on la vie d'une famille ? Comment vit une famille ? On pourrait répondre de manière très simple en disant qu'une famille, c'est un corps dans lequel on se soutient mutuellement. Ce qui est au cœur de la famille, c'est le fait de se porter les uns les autres. Je voudrais même préciser peut-être cela. Peut-être en deux points, se porter les uns les autres. C'est-à-dire d'abord, aider les enfants et les jeunes à grandir pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Et puis deuxième point, être disponible pour les plus fragiles, les malades, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, tous ceux qui sont en souffrance. Voyez, le concile met devant nos yeux l'image de la famille, et je me pose la question, mais au fond, comment vit une famille ? Une famille, elle fait grandir les jeunes et elle accompagne les plus fragiles. La réalité d'une église, de notre église, c'est d'être une famille, et une famille vit toujours au rythme du plus fragile. Une personne âgée que l'on invite le dimanche, ça peut être ses propres parents, ou un enfant qui doit dormir plus tôt. Ça, ce passage, ça m'a été soufflé par une mère de famille. C'est Christine qui m'a dit ça. Mais j'ai peu d'expérience en la matière, effectivement. Ça va ? Premier point, je suis revenu sur le lien entre l'Eucharistie et l'Église. Le deuxième point, j'interrogeais notre pratique actuelle. Troisième point, je me suis appuyé sur cette figure de la famille que le Concile nous donne pour comprendre l'identité de l'Église. Alors du coup, quatrième point et dernier, rassurez-vous, nos paroisses sont-elles des familles ? Essayons de regarder notre vie paroissiale ou la vie de nos mouvements en fonction de cette dynamique familiale. Pour rebondir sur nos difficultés pastorales contemporaines, comme je le disais tout à l'heure, il faut toujours revenir à la source d'où nous sommes nés. Alors posons-nous honnêtement et humblement peut-être la question. Le centre d'intérêt de nos vies communautaires est-il d'abord de coopérer à la croissance des plus jeunes et au soutien des plus faibles? Est-ce que c'est premier, ça? Si l'Église, c'est d'être une famille, et qu'une famille, en fait, elle fait ça. Est-ce que notre centre d'intérêt est de coopérer à la croissance des plus jeunes et au soutien des plus faibles? Sommes-nous, par ailleurs, rassemblés en communauté par notre désir d'accueillir ensemble la volonté de Dieu? Que ta volonté soit faite. Si je devais forcer le trait, chers amis, pardon pour ceux que ça peut blesser, mais je dirais que nos communautés sont aujourd'hui particulièrement préoccupées et parfois même envahies par la mise en œuvre de nos célébrations, de nos messes. Gérard l'a bien relevé hier. Mais je ne suis pas convaincu que ces célébrations-là, que ces messes-là, soient toujours ce qu'elles devraient être au regard de la vie d'une famille, c'est-à-dire l'expression de notre choix premier et fondamental d'accompagner les personnes, en premier lieu les plus jeunes et les plus fragiles, pour que tous ensemble, nous accueillons la volonté du Père. Alors vous me direz qu'une famille, elle a besoin de rythmer sa vie, par les repas notamment. Et on est heureux de se retrouver pour un repas de Noël, un repas du dimanche, des ravioles le soir, comme c'est mon cas, régulièrement. C'est très pratique, les ravioles. Mes chers amis, si toute notre activité, toute l'énergie de notre paroisse, toute l'énergie d'une famille consiste à faire des repas, vous aurez et nous aurons une belle coquille, mais elle sera vide. Et j'ai rencontré bien souvent des jeunes qui me disaient « Oui, je vais en famille pour Noël, mais franchement, je me demande ce que j'y fais. » Mais parce que notre famille, eh ben, elle est fragile. Et qu'il n'y a pas grand-chose derrière, en fait. Et c'est triste, et c'est douloureux. Et parfois, eh bien, nos communautés, oui, on prépare la messe. Oui, on donne de l'énergie. Oui, on trouve le bon relais. Oui, on a enfin trouvé une dame qui va faire chanter et un jeune qui a bien voulu sortir sa guitare. Ok, mais est-ce que ce qu'on va mettre en œuvre est plein? Est-ce que c'est une coquille pleine qui exprime ce qu'on a fait le choix de vivre ensemble, c'est-à-dire accompagner, cheminer, marcher avec les plus jeunes et les plus fragiles? Voilà, je termine. Je conclus. Nos communautés, notre évêque l'a dit hier, héritent d'un passé riche, mais qui peut s'avérer structurellement lourd. Et le Concile Vatican II nous laisse un repère important, ce que j'ai appelé tout à l'heure en introduction un outil de discernement. La nature de l'Église est d'ordre familial. Nous sommes rassemblés ce week-end parce que nous collaborons à la mission de l'Église qui consiste à faire des disciples. Comme dans une famille, nous sommes appelés à épouser le rythme des plus jeunes, des plus fragiles, vers qui l'Esprit nous envoie. Et vous vous souvenez peut-être de cette phrase que Jésus donne dans son grand discours sur la montagne, au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Si quelqu'un te demande de faire 1000 pas, fais-en 2000. Alors si nous consacrons notre effort à accompagner les personnes dans leur marche à la suite du Christ, et je reboucle avec ce que je disais au début, nous serons naturellement conduits à l'Eucharistie. Si nous faisons le choix premier d'être une famille qui accompagne, alors nous serons conduits naturellement vers l'Eucharistie, non pas comme la case par laquelle il faut passer malgré tout. Il faut bien célébrer la messe de Noël, on n'a pas le choix. Nous serons conduits à l'Eucharistie, non pas comme la case par laquelle il faut passer, mais, comme le dit encore le Concile dans Lumen Gentium au chapitre 11, comme la source et le sommet de toute notre vie chrétienne. Notre évêque nous invite souvent à repenser aux premières communautés chrétiennes. C'était le cas dans sa lettre pastorale de 2013. Souvenons-nous de ce que j'ai relevé au début. Ces premières générations chrétiennes, vivant l'Eucharistie dans toute sa signification, ne se posaient pas la question de la nature de l'Église de manière théorique. À notre époque, malheureusement, c'est parfois l'inverse. Et du coup, on risque de décrire l'Église avec un cadre qui ne lui correspond pas du tout. Et on va décrire l'Église à travers un cadre politique, un cadre social, un cadre économique, que sais-je. On va décrire l'Église à partir de sa hiérarchie. Tout ça est nécessaire, mais ça ne dit pas le cœur de ce qu'est l'Église. Alors, eh bien, demandons peut-être, dans ce temps que nous vivons ensemble ce week-end, au Seigneur cette grâce de pouvoir faire l'effort de nous accorder vraiment sur ce qu'est l'Église, une famille, pour que l'Eucharistie soit vécu dans toute sa signification, que l'Eucharistie soit l'expression de ce cheminement que nous voulons mettre en œuvre les uns pour les autres, que l'Eucharistie exprime ce que nous sommes, le corps aimant de Jésus, son épouse bien-aimée pour laquelle il a versé son sang. Merci beaucoup.